la paracha, c'est une section de la Torah. Le Sefer Torah, le rouleau de la Torah que l'on connaît, contient un texte, et ce texte est divisé par nos Chachamim en 54 sections hebdomadaires. On lit le Sefer Torah sur la durée d'une année entière, une année juive, avec 54 sections. La paracha de cette semaine, c'est la paracha Lech Lecha, la troisième. Elle fait partie du livre Bereshit. Chaque Shabbat matin, la paracha de la semaine est lue à la synagogue, suivie d'un extrait des prophètes, que l'on nomme Haftara. Les Haftarot sont choisis, la plupart du temps, en relation avec leur lien thématique avec la paracha du jour. On se retrouve donc avec deux textes lus en public, la paracha, une section du Sefer Torah, puis une section extraite de l'un des livres des prophètes. Il faut savoir que ce que l'on appelle la Torah, c'est un ensemble de trois grandes parties. La Torah strictement dite, c'est-à-dire le Sefer Torah, les prophètes, toute une série d'ouvrages sur les prophètes, et les hagiographes, c'est-à-dire des écrits, dont font partie par exemple les psaumes ou bien le livre d'Esther. La Torah écrite, donc la Torah qui nous est remise, qui a été remise à Moshe au Sinaï, le rouleau de la Torah que l'on connaît, contient plus de 300 000 lettres dans sa version manuscrite traditionnelle et de 80 000 mots et environ 8 000 versets. La Torah est donc un texte qui peut être lu et compris. Puisqu'on a un texte, on va comprendre ce qui est écrit, mais il y a, contrairement à tous les livres, car on sait qu'un livre, ben une fois qu'on l'a lu, en principe, il a livré tout son contenu, eh bien, dans le cas de la Torah, c'est tout à fait différent, parce que la Torah est infinie. C'est un texte donné par le Créateur et il contient plusieurs niveaux de sens. Le sens le plus simple, c'est le pshat. Le pshat, c'est-à-dire le sens littéral, on lit ce qu'il y a écrit et on comprend ce qui est expliqué au niveau le plus simple. Par exemple, Dieu a créé le ciel et la terre, point. C'est ce qu'il faut comprendre. Deuxième sens, le sens allusif. Il y a des éléments qui font allusion à autre chose, qui permettent d'autres développements. Troisième niveau de sens, le drash. Le drash, c'est l'élargissement encore du sens de la Torah avec des enseignements éthiques, légaux, tout cela bien entendu à partir du texte biblique. Et le mot drash d'ailleurs nous pilote un peu dans cette direction puisque le mot en question signifie rechercher ou enquêter. On a donc enfin le dernier niveau de sens, de ce que l'on appelle en résumé le pardès, qui veut dire verger en hébreu, et qui prend les premières lettres des différents niveaux de sens, eh bien on a sod, c'est le niveau mystique du texte, le sens auquel s'attache à comprendre et à éclairer les kabbalistes en particulier. Mais ce texte ne se suffit pas à lui-même. Et c'est la grande erreur de tous ceux qui prétendent étudier la Bible en ouvrant un livre, une traduction parfois, et essayer d'eux-mêmes de comprendre tout ce qui est écrit dans la Torah. Car en fait, Hachem n'a pas transmis une Torah, mais deux. La Torah écrite, que l'on appelle Torah Shebaalpé, et une Torah orale qui, entre autres choses, contient une sorte de boîte à outils. Et celui qui prétend comprendre la Torah sans la boîte à outils qui va avec, eh bien, tout simplement, n'y arrive pas. Il y a des choses que l'on ne peut pas faire si on n'a pas les outils adéquats. Et malheureusement, beaucoup de spiritualités étrangères ont cru pouvoir s'approprier le livre de la Torah en restant au sens littéral, à un sens littéral qui même parfois était un sens tiré d'une traduction erronée. Car les mots de la Torah ont un sens, il faut encore qu'ils soient validés par la tradition juive pour qu'il exprime ce qu'il doit exprimer. Et la Torah, la boîte à outils, est indispensable. Donc cette boîte à outils permet de comprendre ce qui est écrit, mais aussi d'accéder aux différents niveaux de sens. L'une de ces méthodes, beaucoup de gens, le grand public connaît cette méthode, c'est, on parle de gématria. Alors, la gématria, c'est la valeur numérique des lettres. Et là, une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissaient pas cette notion. À chaque lettre hébraïque correspond une valeur numérique. Aleph, c'est 1. Bet, c'est 2. Etc., etc. À partir de cette correspondance de valeurs numériques, eh bien, on peut attribuer un total à un mot. Un mot, c'est donc une addition d'une série de chiffres. Dans l'une des méthodes, il y a un très grand nombre de méthodes de gématriote. Évidemment, notre séance est courte. Il est pas, et puis, ce n'est pas le sujet de rentrer dans tous les outils de l'interprétation de la Torah. Notre but aujourd'hui, c'est simplement, d'abord, je voudrais dire que l'on dédie cette séance d'études à nos chers disparus et à la guérison de tous les malades d'Israël. Et pensez chacun de vous au nom de la personne que vous voulez associer à cela, mais nous avons associé tout le monde au mérite de cette étude. La gématria peut nous donner une idée de l'infini de la Torah. Je vais pour cela me baser sur un texte qui vient du cinquième livre de la Torah, Devarim, et dans ce texte, Moshe, qui achève d'adresser toutes les paroles à Israël, de la parole de la Torah, conclut en signalant ceci, que les paroles de la Torah ne sont pas choses indifférentes. Plus exactement, voilà ce qu'il dit. Prenez à cœur toutes les paroles par lesquelles je vous ai demandé en ce jour, et que vous devez recommander à vos enfants pour qu'ils observent avec soin toutes les paroles de cette doctrine. Et il ajoute alors ces mots, Kilo davar rek ou Mikem, car ce n'est pas une chose vide pour vous. Et il poursuit, c'est votre existence même, et c'est par ce moyen seul que vous obtiendrez de longs jours sur cette terre pour la possession de laquelle vous allez passer le Jourdain. Donc, Moshe, peu de temps avant son départ de ce monde, admoneste les enfants d'Israël qui s'apprêtent à rentrer en Terre Sainte en leur disant, vous avez la Torah. Eh bien, sachez que ce n'est pas qu'un livre, ce n'est pas qu'un rouleau avec des pages, non, ce n'est pas une chose vide. Eh bien, il le démontre que ce n'est pas une chose vide. Il le démontre en le disant même. Car quand il dit Ki lo davar rek hu mikem, si l'on fait la guématria de cette expression, nous trouverons 679. Je vous fais grâce du détail, vous me croyez, je vous montrerai le compte si vous voulez tout à l'heure. Et il se trouve que ce n'est pas pour vous une chose vide, eh bien ça correspond, imaginez-vous, à la gématria 679 du mot gématriote, qui veut dire gématria au pluriel. Je ne sais pas si je n'ai pas encore la maîtrise, je vais bientôt y arriver, mais pour l'instant je n'ai pas encore la maîtrise de la transmission de documents. Je vais tenter de vous le montrer ainsi, d'une manière un peu rudimentaire. Est-ce que vous voyez ce que je vous montre? Oui, c'est une page ou est-ce que c'est bien cadré? Et il y a la phrase en question et le total, et l'on voit que gématriote égale ce n'est pas vide. Voilà, je peux retirer la page? Voilà, la démonstration se trouve dans le texte. Derrière le texte même de la Torah, il y a une quantité de sens empilé. Et il est quand même prodigieux que cela soit signalé ainsi directement. Bon, ce n'est pas le lieu de nous attarder sur toute l'interprétation de la Torah. J'ai fait un ouvrage pour compiler toutes ces méthodes et avec des exemples, etc. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est interpréter la Torah, où justement toutes les méthodes sont recensées, etc., depuis Hillel l'Ancien, Nahum Ngashzou, tous les grands maîtres. Et les méthodes peuvent être variées. Bon, on pourra, je vais m'arrêter là car l'interprétation en tant que telle, je crois, j'ai atteint le but qui était de dire que ce n'est pas vide. S'il y a des sens, il y a des sens empilés, tous conformes les uns aux autres et également conformes à l'enseignement de nos maîtres. On pourrait s'étonner peut-être de cette quantité de sens, mais vous avez tous la pratique de cela. Tout le monde connaît ce qu'est un diamant. On sait qu'un diamant, c'est une pierre merveilleuse, extraordinaire, qui renvoie la lumière avec différentes facettes, etc., etc. Bon. Mais un diamant ne reçoit qu'une lumière. C'est toujours la même lumière que reçoit le diamant et que redistribue différemment chacune de ses facettes. Eh bien, c'est exactement à ce genre de choses que l'on peut comparer, me semble-t-il, la Torah. Il y a une seule lumière qui entre, c'est la lumière de l'enseignement d'Akadosh Baruch Hu. En revanche, en sort plusieurs facettes, plusieurs lumières, plusieurs éclats qui procèdent du même enseignement de base. Donc, il y a multitude de sens, c'est infini. Et si vous voulez, avant de quitter rapidement ce sujet de l'infini de la Torah, pour rentrer dans un exemple sur notre paracha, je voudrais vous donner une autre idée de cet infini qui nous fait aller beaucoup plus loin encore dans cet infini. Considérons chaque lettre, l'écriture de chaque lettre. Eh bien, chaque lettre, si on l'analyse à la loupe, si j'ose dire, eh bien, chaque lettre est elle-même composée d'autres lettres. Ainsi, ce qui est connu depuis très longtemps, le livre Le Bahir l'expliquait déjà, c'est-à-dire un livre de pré-Kabbale d'il y a très longtemps, hein, 12e siècle de mémoire. Cela dit quoi? Que le Aleph, la lettre Aleph, est composée d'un Vav central, d'un Yod supérieur et d'un Yod inférieur. Ainsi, une lettre devient trois lettres. C'est-à-dire que 1 est égal à quoi? Puisque on sait que chaque lettre a un sens numérique. Yod, c'est 10, Vav, c'est 6. Eh bien, 1 égale 26. Eh bien, cela est parfaitement connu. On dit Shema, Israël, Hachem, Echad. Echad, c'est 1. Hachem est 1. Mais il se trouve que quand on fait la gématria du nom Hachem, eh bien, on retombe sur 26. Donc, dire 1 égale 26, c'est absolument pas une aberration mathématique. Puisque on le sait, HM est 1. Donc 1 égale 26. Regardons une lettre seule, le Aleph, il nous dit la même chose. Vous voyez la profondeur vers laquelle on peut être acheminé. Et je vais vous montrer encore plus sur ce sens, bien sûr, très rapidement. C'est un petit ouvrage qui a été terminé au début de cette année. Eh bien, on voit chacune, regardez là. Chacune des lettres, c'est pas très clair, voilà, chacune des lettres correspond à d'autres lettres. Je ne sais pas si vous le voyez bien, il faut que je maîtrise cette technique d'envoi de documents, mais on peut, je crois, voir un peu plus haut. Oui, parfait, c'est bien comme ça? Voilà, vous voyez qu'il y a dans le tableau la lettre de l'alphabet et on voit toutes les autres compositions, la composition de chaque lettre. Bon, ainsi, vous vous rendez compte sans difficulté que cela donne une perspective absolument inouïe à ce texte. Quand on lève le rouleau de la Torah, les Shabbats ou à Simchat Torah, etc., ce n'est pas un objet. C'est un objet, on plonge le regard dans un infini et qui est tout à fait considérable. Et pour vous donner un exemple, cette analyse de sens permet, disons, cette écriture, cette simple décomposition des lettres en ce que j'appellerais lettres-éléments. Des sous-lettres, les Chachamim l'appellent les kochot, car les lettres ont une force. Koach, c'est la force. Les lettres ont une force. Chaque lettre a plusieurs forces en elle. Enfin, chaque lettre. Les lettres qui sont composées de plusieurs lettres ont plusieurs lettres en elles. Et regardez un exemple. Il est écrit dans les Pirkei, dans la Mishnah, dans les Pirkei Avot, que la Torah vient du Sinaï. On a compris par plusieurs exemples cette question disons, le texte ne se suffit pas à lui-même. L'explication du texte ne suffit pas. On peut plonger dans d'autres niveaux de sens. Et le mot même, quand Moshe dit la Torah n'est pas vide, eh bien derrière cela, il y a aussi une équivalence de valeur numérique avec le mot guématriote, ce qui montre bien que derrière les mots de la Torah, il y a d'autres niveaux de sens à explorer. Et j'ai abordé une question supplémentaire, enfin une dimension méconnue de l'infini de la Torah, c'est que chaque lettre hébraïque est elle-même composée souvent de plusieurs lettres. Et par exemple, ai-je dit, le Aleph, c'est un Vav, c'est un Yod et un Yod. C'est-à-dire que cela permet l'équivalence a priori étonnante de 1 égale 26. Un mathématicien nous mettrait 0 à notre copie. Comment? 1 égale 26, c'est n'importe quoi. Mais pourtant, non. Du point de vue de la Torah, effectivement, 1, Hachem Echad, correspond à 26, le tétragramme. À ce propos, je voulais donner un exemple d'interprétation. Dans la Mishnah, dans le Pirkei Avot, on nous dit que Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Or, que lisons-nous? Car, bien entendu, en lisant nos textes, que ce qu'il s'agisse de la Torah, de la Mishnah, etc., il faut avoir l'esprit aiguisé pour poser des questions. Eh bien, pour essayer de dire que ça veut dire quoi, enfin, il faut commencer par se poser des questions aussi. Donc, pourquoi est-il écrit que Moshe a reçu la Torah mi-Sinaï? Il n'y a pas B-Sinaï, mais mi-Sinaï. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu, B-Sinaï veut dire dans le Haut-Sinaï. C'est l'indication d'un lieu géographique. Or, mi-Sinaï, ça ne veut pas du tout dire ça. Eh bien, si on comprend le même vu dans l'interprétation que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire chaque lettre contient d'autres lettres, eh bien même contient un raf et un vav. C'est-à-dire que même signifie raf 20 plus vav 6, 26. Donc on nous dit que Moshe a reçu la Torah de 26. Et qu'est-ce que c'est que 26? On a vu que c'est Hachem. Donc, voyez-vous comment, avec cette analyse approfondie des lettres, quand on prend le microscope, par exemple, eh bien, enfin, c'est une image, bien sûr, quand on prend le microscope, eh bien, on comprend des choses qui, a priori, ne pouvaient pas. Bon, j'ai tiré cette analyse, c'est mon fils Rav Eliaou qui me l'a révélé. Il m'a dit, mais voyons, c'est écrit, c'est clair, c'est clair. Et effectivement, c'est clair. À ceci, mon petit-fils Hillel m'a dit, mais de toute manière, voyons, regarde, c'est inscrit dans les voyelles. Vois les voyelles que tu as, car il faut savoir que les voyelles hébraïques elles-mêmes, Baruch HaShem, eh bien, j'étais très content de ce chidouche, de ces deux chidouches, parce que les voyelles elles-mêmes, il faut le savoir, ont leur gématria. Les voyelles sont faites de traits et de points, donc de vav et de yod. En quelque sorte. Donc, on peut attribuer 6 au vav et 10 au point. À partir de là, eh bien, effectivement, les voyelles de mi-Sinaï correspondent exactement à 26. Donc, on a que la bizarrerie apparente que ce n'est pas au Sinaï qu'il a reçu Hachem, que Moshe a reçu la Torah de Dieu, mais on voit bien qu'il l'a reçu de Dieu. Aussi bien si on considère le même décomposé en korot, ou si on considère les voyelles selon la gématria des voyelles que nous enseignent les Chachamim. Voilà, on n'est pas loin de terminer, puisqu'on est déjà à 52 et on nous enlèvera la parole dans peu de temps. Donc, je vais vous dire quelques mots de la paracha. Il faudrait le faire, je l'ai prévu, j'avais prévu un cours un peu trop long, visiblement, mais on peut, à partir de la paracha Lech Lecha, il y a tout un texte. Essayez de me répondre avec, comment dire, avec un mouvement de tête. Voulez-vous que l'on prolonge par une autre séance où l'on approfondit la paracha vue sous cet angle? Bon, on communiquera par WhatsApp, n'est-ce pas? On communiquera pour voir si l'on voulait que l'on développe plus tout cela. En tout cas, parce que je n'ai pas le temps de préparer, de résumer ici toute la paracha, en deux mots, c'est la rupture. C'est la rupture d'Abraham avec son milieu d'origine, c'est-à-dire la famille de son père qui était idolâtre. Bon. C'est ça l'histoire que raconte la paracha. Alors là, si vous voulez une petite histoire vraiment pour détendre un petit peu, c'est mais qui fait partie complètement du midrash, de la tradition. Terach, père d'Abraham, était fabricant d'idoles. C'était son métier. Eh bien, quand Abraham a eu la révélation que Hachem était le créateur, qu'a-t-il fait? Il a pris une masse, un gros marteau, et il a cassé toutes les idoles de son père dans la boutique, sauf une, la plus grande, dans les, entre guillemets, les bras de laquelle il a mis la masse. Le matin, Terach ouvre sa boutique, et il voit ce chaos dans la boutique, et évidemment, et il convoque, il a tout de suite compris que c'était Abraham qui avait fait ce coup. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais il a dit, mais tu vois bien que la grande idole a une massue dans les mains, un marteau dans les mains, c'est lui sûrement. Je dis, mais attends, voyons, tu sais très bien que les idoles ne sont pas capables de faire ça. Il dit, mais alors, si tu sais, à quoi ça sert d'adorer ça? Et c'est ainsi que Abraham s'est détaché du culte de ses parents, c'était une rupture par rapport à sa famille, et à l'âge de 75 ans, il est parti avec son épouse et son neveu Lot vers la terre de Canaan, alors qu'il se trouvait à Haran, qui est, si on veut préciser géographiquement les choses, c'est quelque part au sud de la Turquie et au nord de la Syrie. Il était parti de Mésopotamie, d'Ur-Kasdim, où il avait eu des démêlés avec le roi Nimrod, qui l'avait mis dans une fournaise. Dieu a sauvé Abraham de sa fournaise, de cette fournaise, et mais il a dû partir et ils ont remonté les fleuves en montant jusqu'à donc ces montagnes d'Aram. C'était le pays d'Aram, donc frontière grosso modo en Turquie, mais plus ou moins proche de la frontière nord de la Syrie. Et c'est là où je voulais faire le lien, disons, parce que comme il est remonté, il a eu cette lutte avec Nimrod. Nimrod ne va pas du tout, bon, va poursuivre Abraham. Et c'est le passage de cette paracha contient énormément de choses, évidemment, comme on le sait bien. Dans toutes les parachas, il y a énormément de thématiques. Mais l'une de ces thématiques, c'est la guerre entre quatre rois orientaux et cinq rois de Canaan. Canaan, c'est le nom de la terre d'Israël. Pourquoi? Non pas qu'elle appartenait